Je vous salue tous dans le nom de Jésus et je vous dis combien il est important pour nous tous de nous réunir ensemble pour célébrer le nom de Jésus et de son Père, de savoir que le Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il va agir encore ce matin. Nous sommes partis quelques jours, Marie-Thérèse et moi, et puis avec Jean-François, on est partis voir un des fils de Marie-Thérèse, Jean-Louis, qui est dans le... dans la région de Niort, et on a dormi donc dans une chambre, et puis j'ai vu qu'il y avait un petit tableau, et je m'approche, et je lis, et je vois, tiens, c'est pas mal, alors je l'ai copié. C'est bien, c'est pratique, un téléphone portable. Hein. Comme ça, j'ai une fois la photo tout de suite, et le texte sur les yeux. Parlez ici de la foi. La foi est un appel à porter un regard neuf sur soi-même, sur les autres, et sur le monde. Un regard où le respect et l'attention l'emportent sur la peur, le rejet et le jugement. C'est un auteur anonyme. Je pense qu'il avait dû trouver ce texte dans une prédication quelconque, et puis il a fait illuminer une illuminure. Je ne peux pas le projeter là, sinon j'aurais dû faire une clé USB. Mais c'est une pensée quand même qui est aujourd'hui centrale. La foi, c'est quelque chose d'important, mais je ne vais pas prêcher sur la foi. Mais quand même, je vais intervenir sur cette lecture. C'est un appel à porter un regard neuf sur soi-même, se regarder comme on est, vraiment, de ne pas se faire d'illusions, parce qu'on est des pécheurs justifiés, rappelés par Dieu à une nouvelle vie. Et un regard sur les autres, avec les critiques qu'on voit aujourd'hui et toutes les contestations qu'on entend, et sur le monde en général. On le regarde un peu trop parfois et ne se regarde pas assez à Dieu. Et où le respect et l'attention l'emportent sur la peur. Le respect et l'attention. Sur le rejet et sur le jugement. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'avoir un comportement qui n'est pas un comportement chrétien, mais un comportement simplement charnel dans notre vie de tous les jours. Je vais penser à prêcher sur quelque chose de ce type en disant aujourd'hui, on voit comment le monde est dans un état lamentable à tous égards. Et on le voit, ce n'est pas la peine de prêcher, on le voit, on doit être conscient. Quelle est la nature humaine et la façon dont elle se comporte dans le quotidien de notre vie. Veillons les uns sur les autres, veillons et regardons à nous-mêmes, examinons nous-mêmes et soyons fidèles et attachés à Dieu qui peut changer tout en nous d'une façon incroyable. Mais le thème aujourd'hui, mon message, c'est sur trois principes importants. Le discernement des œuvres du diable, d'une part, la confiance qu'on a en Dieu, d'autre part, et un troisième point, c'est la générosité, le pardon qu'on peut manifester vis-à-vis de nos ennemis. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous tous en tant que chrétiens, de vivre ces choses, discerner ce qu'est l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable. Faire confiance à Dieu pour nous guider et nous conduire, comme il veut, dans la direction qui est la sienne. Et surtout, surtout, être ceux qui pardonnent et qui touchent le cœur de nos ennemis, afin qu'ils soient changer et transformer eux-mêmes. On va prendre le texte dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Je sème. Ma Bible est remplie de notes, alors. Et j'ai même une photo. Tiens. Où j'étais en Afrique, vous ne le voyez pas, avec un beau panier, face à une rencontre de pasteurs là-bas au Congo-Brazzaville. Oh. On se rappelle des vieilles choses, hein, année après année. Mais les choses anciennes deviennent nouvelles. Donc dans ce texte de Roi 6, il est parlé ici d'Élisée. D'ailleurs, je crois qu'on avait intervenu. Ça colle pas? Oui, voilà. Merci. Merci. Les premiers versets du chapitre, je crois qu'on a dû ici l'étudier. du moins pas dans la réunion de prière, je crois, avec la hache qui est tombée dans l'eau et que le bois a relevé. Mais je vais partir à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné s'y aller l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une, mais deux, ni deux fois, pardon, encore plus. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et d'une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors une prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas là ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie lorsqu'ils furent entrés dans Samarie. Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers, avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël fit mieux encore, ici, disons, leur fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revint plus sur le territoire d'Israël. Amen. C'est un texte très particulier. Très particulier. Et quand j'ai réfléchi sur ce texte, quand j'ai vu ces trois éléments qui entraient en ligne de compte, d'une part la générosité du peuple de Dieu vis-à-vis de ses ennemis, ensuite, précédemment plutôt, la confiance en Dieu qu'avait le peuple d'Israël, ou avait Élisée, parce que c'était lui, en fait, qui avait une confiance absolue, et le discernement que Élisée avait des buts, des desseins de l'ennemi, de l'Éternel. Nous avons besoin d'expérimenter ce discernement. Dans notre vie de tous les jours, combien de fois nous sommes bousculés, maltraité par l'adversaire. Personne ici d'entre vous peut dire qu'il n'a jamais été soumis à une œuvre de l'adversaire dans sa propre vie. Aujourd'hui, avant, mais aussi avant sa conversion et après sa conversion, l'adversaire est toujours là comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Il est comme un bélier qui veut enfoncer une porte. Ce bélier, il est là, il fonce, il tape sans cesse dans notre vie pour nous faire plier, pour nous faire nous décourager, abandonner le plan que Dieu avait mis en nous. Il est toujours. Lui, il ne se décourage jamais. Nous, on se décourage souvent. Face à l'adversité, face à la difficulté que nous traversons dans le quotidien de notre vie. Il peut y avoir des attaques brutales. Il peut y avoir aussi des attaques sournoises. Vous vous rappelez quand j'avais parlé ici de cette femme qui était dans une église à Brest et qui était finalement menée par l'adversaire. Elle avait été enseignée par une sorcière. Elle était devenue elle-même aussi une sorcière, malgré que ses parents étaient des missionnaires, engagés. Ils n'avaient rien discerné, ils n'avaient rien vu. Ils étaient mis dans une obscurité totale concernant même le dessein de l'Éternel pour eux et le dessein du diable pour leur fille. Elle avait détruit l'Église. Quelqu'un avait eu le discernement pour l'éloigner, l'écarter de la louange. Et quelqu'un d'autre était venu ensuite, il avait oublié, ce n'était pas grave. Et cette femme a détruit totalement l'Église. Nous avons à lier notre vie à Dieu et savoir et chercher à connaître quels sont les desseins de Dieu, mais aussi quels sont les desseins de l'adversaire. Dans le livre de Josué, il y a eu une belle conquête, c'est la conquête de Jéricho. Là, les hommes et tout le monde étaient heureux, contents, ils ont vu les murailles tomber, sans avoir déclenché une arme quelconque. Les murailles sont tombées. Dieu était là. Et puis, ils ont pensé à une petite ville qui était un peu plus loin, qui s'appelait Aïe. Je dirais Aïe, 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 oui. Une ville sans défense quasiment, une pauvre petite ville. On va s'emparer de cette ville sans beaucoup de dégâts. Mais il y avait une chose qui s'était passée dans après cette conquête, c'est qu'un homme, Achan, avait désobéi à l'ordre de Dieu. Il avait convoité quelque chose, il avait vu, il avait pris, et cela était interdit. Et il y avait un péché dans le peuple de Dieu, et c'était ce péché qui a provoqué la défaite d'Israël face à un petit peuple. Fille du discernement. J'utilise le vieux mot « fille ». Vous connaissez le mot « fille » ? Fille du discernement. On n'a pas besoin de discerner, on y va. On y va au combat, on a été vainqueur une fois, on sera vainqueur deux fois, trois fois, quatre fois. Mais dans notre vie quotidienne, on peut avoir une victoire, mais aussi derrière, attention, il y a quelque chose qui peut se passer et qui vous rend totalement battu. Dans le ministère, on est amené parfois à vivre de telles dimensions. Tout va très bien, tout se passe bien dans l'Église et on oublie, à travers notre vie de tous les jours, de demander à Dieu, « Seigneur, aujourd'hui, aide-moi, éclaire-moi sur la situation qui est là devant moi, afin que je puisse, non pas moi la régler, mais que toi, tu mets en moi la capacité de la régler en ton nom. » Et on peut se trouver confronté à des situations extrêmement difficiles parce que le diable est en train de fomenter un complot. Et ce complot, Dieu va nous donner la capacité de le discerner. Le discernement des esprits, c'est un don qui est important dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement une personne ou deux personnes ou trois personnes, mais une surtout essentielle qui peut avoir ce discernement et le dire et le proclamer afin de prévenir tout le monde. C'est un peu le prophète. On a besoin aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ que des prophètes se lèvent. Vraiment des prophètes qui sont aussi, disons, conduits par Dieu véritablement. Pas les prophètes qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais des hommes, des femmes qui sont appelées par Dieu à annoncer, à dire les choses pour avertir. Pour avertir, pour montrer la direction à suivre. On parle souvent des cinq ministères. Et souvent, le ministère pastoral, oui. Le ministère d'évangéliste, oui. Le ministère d'enseignant, oui. Mais on oublie le prophète. Et il y a aussi l'apôtre. Où ces ministères sont là, importants pour l'Église d'aujourd'hui, pour qu'elle soit conduite dans la direction que Dieu veut, véritablement. et non pas simplement obéir à Dieu et servir Dieu, d'accord, avec tout ce qu'on a, mais sans avoir reçu pleinement cette richesse qu'est le discernement. Dans l'Ancien Testament, on voit combien de cas. Quand Gédéon est mort, son fils, un de ses fils, a pris le pouvoir en assassinant ses 70 frères. Il s'est considéré comme le juge, lui, en remplaçant son père. Pas de discernement. Le peuple n'a pas discerné que cet homme n'était pas celui qui était appelé à le servir, à servir en Israël et à conduire le peuple dans la bonne direction. C'était une épine, un buisson épineux. Nous avons à veiller, frères et sœurs, sur aussi la manière dont nous voyons les choses se dérouler dans le peuple de Dieu aujourd'hui. On voit beaucoup d'églises qui tombent, qui se brisent. Je me rappelle toujours qu'il y avait un frère qui était du côté d'Amnas. Il voulait prendre sa retraite et puis il y avait quelqu'un qu'il avait rencontré à une église, c'était à Toulouse, qui était un homme qui semblait vraiment celui que Dieu voulait pour lui. Dès qu'il est arrivé dans l'église, il a dit au pasteur, « Pasteur, maintenant, toi, tu dégages. » Hein ? Tu n'as plus aucun pouvoir ici, terminé. Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, il est parti. Il a mis le désordre dans l'église. Il n'y avait pas le discernement, il n'y avait pas la main de Dieu qui a joué. Je me rappelle, ce frère, il pensait, on peut penser, mais il faut aussi discerner. Et là, quand on voit dans le livre des juges, lorsque Gédéon, qui était ce juge en Israël, puissant et fort, et ses fils, qui a détruit toute la génération des enfants, il avait quand même 70 enfants, Gédéon, hein, c'était quand même un peu impressionnant, je trouve. J'ai vu sur le journal l'autre jour qu'un couple en Angleterre avait 21 enfants. Oh. Oui, mieux vaut en avoir moins, mais avoir des enfants qui sont aussi dans la direction que Dieu veut, n'est-ce pas? Discernement pour Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson et de sa chevelure, n'est-ce pas? Ce juge en Israël qui avait son autorité et sa puissance dans sa chevelure et qui a été trahi par qui? Ah, Dalila, voilà. Et qui a tout perdu. Il a été abandonné par Dieu. Il avait reçu quelque chose de fort, de puissant. Finalement, il était charnel. Et combien d'autres ont vécu cette chose dans l'Ancien Testament? Oh, je suppose que dans le Nouveau Testament et dans les églises qui ont débuté après l'Ascension et la Pentecôte, il y a eu des églises où tout allait bien ou alors où tout allait mal. Il y avait des clans, des personnes qui étaient disposées à faire ceci, à faire cela. Quand on regarde à Corinthe, on regarde, ils étaient de Paul, ils étaient de Céphas, ils étaient de Jésus même. Ah oui, tous, on est tous de Jésus. Paul, je pense que tout au long de son ministère, a dû subir de grandes souffrances du fait de l'œuvre de Satan voulant le détruire. Il a été lapidé, mais il n'est pas mort. Il a été moqué, il a été rejeté, il a été violenté, mais il a tenu ferme parce qu'il était celui qui aimait Dieu. Et quand Dieu lui a dit de ne pas aller en Asie, quand le Saint-Esprit lui a dit « Tu n'iras pas en Asie », lui a fermé la porte, il aurait pu insister. Avec un entêtement qui aurait été le sien, aller jusque-là, il faut que je continue mon œuvre en Asie mineure. Et Dieu s'est opposé et il est allé en Macédoine. Et pour ça que les églises de Corinthe, et puis ensuite Rome et tout le reste, toute l'Europe entière a été évangélisée. S'il avait désobéi, s'il n'avait pas eu le discernement de ce que Dieu voulait de lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'Église ne se serait pas développée. nous sommes au bénéfice du discernement que Paul a eu dans l'œuvre qu'il devait accomplir. Il a écouté ce que Dieu voulait lui dire. Il a obéi, il a suivi. Ouvre les yeux. Ouvrons les yeux. Ici, quand on regarde ce texte, le roi d'Assyrie, bien sûr, il était en colère. Comment peut-il savoir et voir, entendre tout ce que je dis et connaître mes plans ? Il faut le détruire, cet homme. Il avait raison du côté, pour son propre intérêt. Mais Dieu était là. Et j'aime bien cette phrase qui est dite ici. Ne crains point, le verset 16 de ce texte. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les anges, la puissance céleste est là pour nous protéger, nous garder. Je me rappelle, il y a quelques années ici, au début qu'on est venu s'installer, je demande, Seigneur, mets des anges à la porte de l'Église. Mets des anges à la porte de l'Église pour que ceux qui veulent, qui s'opposent à Dieu et qui veulent entrer au milieu de nous soient arrêtés par ta puissante main. Protection divine pour l'Église. On a besoin de cette protection. Encore aujourd'hui et encore plus. Parce que l'adversaire est toujours là à l'œuvre et cherche à nous détruire dans le quotidien de notre vie. Et même ici, au milieu de nous. Moi, au Seigneur, de mettre des anges pour garder l'Église, pour la protéger, pour la mettre à l'abri de toute pénétration de l'adversaire, que le monde ne puisse pas pénétrer dans l'Église pour détruire, pour lui donner de vivre autre chose que ce que Dieu veut. Ne crains pas. Ne crains point. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Souvent, ce texte est choisi et donné à des personnes qui sont en difficulté, en crainte. La parole de Dieu dit cette chose. Et c'est un peu un verset, je ne vais pas dire le mot comme un fétiche, mais on le cite souvent, peut-être parfois mal à propos. Il faut que ce soit donné dans les circonstances où ce verset s'applique et fait qu'on ait confiance pleinement en Dieu. Quand Moïse était au bord de la mer Rouge, quand tout le peuple d'Israël était bloqué, l'armée d'Égypte derrière, il y avait plus de 3 millions de personnes, et là, sur une grève, sur une plage, face à la mer, pas d'issue possible. Tout le monde commençait à crier, à hurler. Moïse dit, taisez-vous. Dieu va agir. Et il agit. La mer Rouge est ouverte, ils ont passé. Et l'armée d'Égypte a été détruite. Être dans le calme, dans la confiance, d'être apaisé. Ouvre tes yeux et regarde la main de Dieu qui agit dans ta vie. Et qui agit aussi dans la main des frères et sœurs dans l'Église. Moi, je me réjouis quand j'entends des témoignages de victoire qui s'accomplissent au milieu de nous. Je voudrais en entendre bien plus. Puis là, qu'ils puissent lever les mains et dire, voilà ce que Dieu a fait. On a besoin d'entendre cela. On a besoin aujourd'hui, encore plus que hier. Quand on regarde la situation mondiale, la situation même dans notre pays, toutes les luttes intestines, les querelles, les mots qui peuvent monter, des termes qui ne devraient pas sortir de la bouche même de chrétiens. Parce qu'on voit des chrétiens qui sont pris au piège de cette position. Le diable veut du succès, il ne l'aura pas, au nom de Jésus. C'est nous qui aurons le succès, c'est l'Église qui sera triomphante. C'est l'Église qui est petite peut-être, mais triomphante. Quand on regarde dans le monde, toutes les persécutions, quand je regarde ce qui se passe en Inde, par exemple, où l'hindouisme veut imposer pour l'Inde toute complète qu'il n'y ait plus aucune religion autre que l'hindouisme. Et que les églises sont brûlées, les pasteurs. Quand vous lisez la revue Portes Ouvertes, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la persécution. Des persécutions terribles. Mais là où il y a la persécution, il y a la victoire. Parce qu'on a vu et on a vu, on a constaté que plus les chrétiens sont persécutés, plus la foi augmente. Et plus la vie de ces hommes et ces femmes touche ceux et celles qui les persécutent et les transforment. Nous avons des témoins aujourd'hui, frères et sœurs. Dans notre vie de tous les jours, dans la façon dont nous vivons notre quotidien. Bon, l'autre jour, ça va faire 2 mois, j'avais prêché ici juste sur le thème qui disait « Que ferait Jésus à ma place ?» Vous en souvenez ?« Que ferait Jésus à ma place ?» Cette interpellation m'avait été vraiment donnée. Je me disais, mais Seigneur, on est quand même assez grand, on a un peu l'intelligence, on sait bien ce qu'il faut faire quand même de temps en temps. Hein, on est responsable. Oui, oui, oui. Et parfois, on est plutôt irresponsable. Parce qu'on agit d'une façon inconsidérée. Que ferait Jésus à ma place? Et ce matin, à travers cela aussi, le discernement que nous pouvons avoir des événements et des faits qui nous entourent, et la confiance en Dieu, on peut dire encore, Jésus, manifeste-toi s'il te plaît. Montre-toi dans nos vies et fais que dans la situation que nous vivons dans le quotidien, parce que parmi nous ici, je sais qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Ils ont besoin d'être encouragés et d'être renouvelés. De voir en soi, de voir l'œil de Dieu, et dit, ouvre les yeux! Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Montre-leur ce qui est autour de toi. Montre-leur la protection que tu leur accordes, l'amour que tu leur manifestes. Je crois que ce matin, beaucoup d'entre nous ont besoin d'être encouragés. Afin que, à travers l'épreuve, que ce soit la maladie ou les déceptions de la vie courante, dans le travail ou de le non-travail, dans tout ce qui est là et qui fait comme un obstacle, comme un mur infranchissable, Dieu vous montre la porte pour franchir le mur. Dieu vous montre la porte. Ce n'est pas un mur opaque, fermé, bloqué. Il y a une porte. Et il va le faire pour vous aujourd'hui. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Aujourd'hui, l'inquiétude ronge notre foi. On a toujours, comme j'ai noté ici, car l'inquiétude trouve toujours de bonnes raisons de s'inquiéter. L'inquiétude trouve toujours de bonnes raisons de s'inquiéter. Il y a les oui, mais. Et comme j'ai dit plusieurs fois ici, mais oui, bien sûr, Dieu est là. Si on inverse les deux mots, hein, ça n'a plus le même sens. Le oui mais c'est négatif, mais le mais oui c'est très positif. Et ça nous fait aller plus loin. Jésus a envoyé les 12 et les 70 en disant « Vous serez comme des agneaux parmi les loups. » Est-ce que vous seriez partis, vous? Est-ce que vous auriez osé sortir de votre maison pour aller dans la rue et vous faire dévorer par un loup? Non. Jésus a dit, allez-y. Mais vous apporterez quelque chose de nouveau dans le monde. Les démons seront chassés, les malades seront guéris. Et la puissance du diable sera bloquée, anéantie. Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Évangélisez, mes frères et sœurs. Pensez que peut-être les loups sont édentés. Hein. Ce n'est que des vieux loups où les crocs sont tombés. Hein? Et que vous pouvez marcher dans la rue sans avoir, comme on a vu l'autre jour encore, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Un homme, un jeune, a eu un mauvais regard vis-à-vis de quelqu'un. Ils l'ont tué. Un coup, rendez-vous compte. Vous regardez quelqu'un dans la rue, même à la limite, vous lui faites un sourire, c'est un mauvais regard. Hein. Moi, j'aime bien sourire. Pourtant, je parais très sérieux comme ça. Marie-Thérèse dit d'ailleurs que je suis trop sérieux. Un sourire, quelqu'un. On interpelle, on parle avec une personne. On y arrive. Encore aujourd'hui. Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Et ils revinrent avec joie, avec force. Et Jésus dit, c'est très bien d'être réjoui, mais sachez, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça qui est essentiel. Et on arrive à la troisième interprétation, du moins, interrogation ou conséquence de ce texte. Soyons généreux. Soyons généreux envers nos ennemis. Élisée a dit au roi d'Israël de leur donner du pain et de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Un grand repas. Ça va loin, hein? Entre le pain et l'eau. C'est presque ce qu'on aurait dans une prison, hein, à cette époque-là. Un grand repas. Et ils sont partis tout joyeux, hein, sans doute, en disant, on a été très bien accueillis par le roi d'Israël, c'est pas un méchant bougre, hein, il ne nous veut pas de mal, alors bon, maintenant on s'en va. Et ils sont partis. Nous, nos ennemis, ayons à leurs égards une générosité qui pourrait complètement les déconcerter. Jésus a dit, hein, il vous a été dit, vous aimerez vos ennemis et vous haïrez vos ennemis. C'est la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Combien d'hommes et de femmes qui ont été emprisonnés à cause de Jésus dans des jolis mondes ont manifesté vis-à-vis de leurs bourreaux une générosité qui était passée. Je rappelle toujours, c'était le. Je ne sais pas si c'est le pont sur la rivière Kwai. Vous connaissez ça un petit peu, non? Ça s'est passé en Birmanie. Pendant la guerre 39-45, avec les Japonais. Et puis il y avait dans ce camp des prisonniers américains, anglais, qui étaient là et qu'on faisait travailler à la construction du pont jusqu'à leur mort, disons, hein, puisqu'on ne les nourrissait pas. Et dans ce camp, un Nouveau Testament est entré. Enfin, comment? Il est entré. Parce qu'il fouillait tout. Hein, on ne pouvait pas faire entrer quoi que ce soit de chrétien dans ce lieu. Et un homme l'a eu en main. Et puis il a dit, mais est-ce que quelqu'un parmi nous pourrait le lire? Il n'osait pas le lire. Ou il trouvait que c'était trop compliqué. Oh ben il y a un homme qui dit, ben, moi je le sais, je vais lire, si vous voulez, on va le lire. Et puis tous les jours, ils ont lu des passages de l'Écriture. Et au fur et à mesure qu'ils lisaient ces passages, les gens qui étaient dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, dans la terreur, le regard a changé. Ils ont vu, à travers les lectures de l'Évangile et des Épîtres, ils ont vu l'amour de Dieu pour eux. Et leur vie a été changée. C'était un camp qui est devenu une église. Les Japonais n'en revenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? En plus, ils sont de bonne humeur. Ils vont au travail joyeusement. Ils s'entretiennent, ils sont entre eux, ils s'aident, ils s'encouragent. On n'a pas pu les diviser. C'est un miracle. Un miracle. Et cela a duré, malgré les efforts des Japonais pour détruire cela, ça a duré jusqu'à la fin de la guerre. Bon, tout le monde n'était pas rescapé, mais il y a eu des rescapés. Et celui qui avait eu ce livre en main, cet évangile, ce Nouveau Testament, s'est engagé après en tant que pasteur. Il a vu l'appel de Dieu qu'il avait sur sa vie pour changer les autres et changer lui-même. Dieu l'avait transformé et avait fait de lui un autre homme. Et il s'est engagé donc en tant que pasteur et il est parti. Un jour, il est parti au Japon. Il est parti au Japon. Convention. Je ne sais pas si c'était baptiste ou autre, mais évangélique. Et dans cette convention, il rencontre un Japonais qui vient vers lui. C'était le chef du camp. Ils se sont face à face, le bourreau et la victime. Et ils se sont mis à sauter les bras les uns des autres. Car lui aussi, cet homme japonais, il s'était donné à Christ. Il n'y a pas beaucoup d'églises au Japon, mais il y en a. Et cet homme, ces deux hommes, se sont considérés comme étant des frères, véritablement frères. Ennemis au départ, mais des hommes dont le cœur a été changé et transformé par la puissance de Dieu. Il y a aussi une autre femme, c'est Corinne Ten Boom, qui est aussi, qui a écrit un livre également, qui était aussi une déportée en Allemagne, et qui a aussi, dans une convention, un jour, a rencontré aussi un des gardiens. Elle s'est trouvée face à face à cet homme qui arrivait vers elle en tendant la main. Et elle était comme paralysée, les mains bloquées sur le long du corps, savant que faire. Mais Dieu lui dit, donne-lui ta main. Et ils se sont pris la main et ils se sont embrassés. Des années après, des souffrances qu'elle avait vécues. Mais la réconciliation est possible. La victoire est possible en Jésus-Christ. Les ennemis que nous pouvons avoir peuvent devenir nos meilleurs amis, nos frères, nos sœurs en Jésus-Christ. Et ça, moi je veux y croire encore aujourd'hui, encore plus qu'hier. Nous appartenons à Christ et nous voulons vivre de lui et dépendre de lui pleinement et richement. Et qu'autour de nous, le monde sache que Dieu est grand, mais que Dieu est bon. Oh, beaucoup disent le bon Dieu. Oh, l'expression un peu populaire. Oui, on n'ira pas en enfer, Dieu est bon. Oui, mais si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas que Dieu est Dieu et que Jésus est ton sauveur, à quoi ça sert de dire le bon Dieu? Les traditions, une chose, mais la foi, l'assurance, comme j'ai lu tout à l'heure ce texte, ce respect mutuel, ce non-jugement que nous devons porter sur les uns et sur les autres. Nous avons besoin de vivre cette dimension, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau encore que nous voulons vivre, dans laquelle la présence de Dieu sera manifestée à travers vous, à travers vous. Chacun d'entre nous, nous sommes des responsables. Nous avons à montrer aux hommes d'aujourd'hui que Dieu existe et qu'on ne peut pas imposer les lois de Dieu, mais qu'on ne peut simplement que montrer que Dieu est grand et qu'il nous aime. On aurait tendance à vouloir à tout prix mettre les lois divines, les lois de la parole de Dieu, à les imposer aux hommes, de tout genre, de toutes espèces, on peut dire, de toute race, si on peut dire encore le mot race, de toute origine. C'est nos vies qui manifestent la présence de Dieu. Et si je me réjouis qu'il y a multiples nationalités, qu'on est ensemble comme frères et sœurs, et qu'on peut se nourrir ensemble de la bonne nouvelle, et qu'on peut l'écrire, et on peut le dire, le proclamer, l'annoncer. Dieu est grand. Il veut aujourd'hui nous fortifier, nous encourager. Nous allons prier un instant. Merci pour ta parole, Seigneur. À travers cette vie d'Élisée, à travers ce témoignage d'un homme qui t'avait rencontré vraiment, qui t'avait rencontré, qui t'avait entendu et qui avait obéi. Tu as montré à d'autres hommes autour que tu étais là. Je crois que ces peuples syriens, ces Syriens qui ont été en somme, qui ont eu un grand repas, qui ont vu la puissance de Dieu manifester à leur avantage, dans le sens qu'ils sont encore vivants, étaient encore vivants, se sont tournés vers toi et ont donné leur vie à ce grand Dieu que tu es. Merci, Seigneur, pour ce texte. Merci pour cette confiance qu'on peut manifester à ton égard, cette assurance que tu es là et que tu nous gardes. Et merci, Seigneur, pour le cœur changé que tu nous as donné. Tu as dit qu'il y aurait un cœur nouveau. Tu changerais notre cœur de pierre à un cœur de chair. Que tu accorderais à chacun d'entre nous une vie nouvelle, une espérance nouvelle, une certitude pour l'éternité. Merci pour ce que nous avons reçu de toi. Et je te remets chacun de nous et moi-même pour que ma vie, nos vies t'honorent et te glorifient à tous égards. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Amen.